Eh bien, mes frères et sœurs, je vous avais laissé avec un message la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai laissé avec un rendez-vous, Dieu voulant, le 1er décembre, le 1er janvier, pardon, 1er de l'an. Ah oui, non, je suis en marche arrière. Le 1er de l'an, je vais donner la suite de mon message. Alors, je ne vais pas donner la suite du message tel que je l'avais pensé, mais en définitive, je vais faire un trait d'union entre les deux messages, et ça va être le même message quand même. En partant de ce que j'ai donné à la réunion de prière, un verset qui m'a sauté au cœur, comme on, voilà, de temps en temps, lorsqu'on lit l'Écriture et dans les passages que nous lisons actuellement, il y avait Michée. Et donc, le vendredi matin, en tout cas, dans le programme tel que moi je le suis, il y avait Michée chapitre 5. Et il y avait un très beau verset qui m'a mené plus loin que la douceur, on peut dire, de ce verset ensuite. C'est chapitre 5, verset 6. Que le Seigneur veuille bénir sa parole. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme. Elles ne dépendent pas des enfants des hommes. Je m'arrête à ce simple verset déjà, mais je serai obligé d'arriver aux deux versets qui suivent, parce que c'est un ensemble. Mais j'avais été saisi par cette affirmation que les gouttes de rosée ne comptent pas sur l'homme. Elles ne dépendent pas des enfants des hommes. C'est au milieu de beaucoup de réprimandes, hein, le prophète Michée, comme malheureusement les prophètes doivent le faire. Mais cette image bucolique, pour en définitive dire une réalité tragique que nous allons retrouver dans les versets suivants. Il est question d'un reste de Jacob. Le reste de Jacob. Israël avait été promis à être une multitude, mais il se réduit à un moment donné à un reste. S'il y a un reste, c'est que Dieu a fait grâce. C'est que Dieu a veillé sur son peuple, en fait. Mais ce reste a une relation très particulière avec Dieu, et on peut dire de ce fait, ce reste a une relation très particulière avec Dieu. Il n'existe que par Dieu et il ne veut pas qu'il en soit autrement. Il ne dépend pas des hommes. Il dépend de Dieu lui-même. Tout comme la rosée, les gouttes d'eau sur l'herbe ne comptent pas sur l'homme. La rosée n'est pas une œuvre humaine, mais divine. Rosée qui vient de l'Éternel. En effet, le matin, l'homme constate simplement que la rosée est là. Les gouttes n'ont nul besoin des hommes, et si elles pouvaient parler, comme on le fait parfois parler dans les dessins animés, hein, elles affirmeraient que c'est très bien ainsi. Dans le même domaine, vous savez certainement qu'un flocon de neige est une merveille. J'ai entendu encore cette semaine qu'il y a en Amérique un homme qui, depuis le confinement, s'était mis à photographier en gros plan les flocons de neige. C'est une merveille et aucun n'est identique. eux aussi ne comptent pas sur l'homme. C'est la création divine, variée, parfaite, structurée. Un flocon de neige, c'est structuré. Alors, le reste, au milieu des peuples nombreux, ne peut compter que sur Dieu. Et je dirais qu'il y a déjà pour nous une première leçon, c'est que si Dieu nous fait la grâce d'exister comme étant ses enfants, nous ne vivons en ne comptant que sur lui, parce que c'est par lui que nous existons. Nous n'existons pas par une volonté humaine, nous ne sommes pas nés ni de la chair, ni de l'homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Alors, allons à la réalité première, parce que nous, bien sûr, dans la société moderne, nous parlons de météo et de phénomènes naturels. Et les prévisions météo, ben, se sont suivies, bien entendu. Moi, j'aime pas trop quand même suivre les prévisions météo, parce que c'est pas trop le important, en fait, pour moi. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, peu importe. Nous allons vivre et faire ce que nous devons faire. Mais en tout cas, la réalité première, eh bien, elle est celle-ci, elle est dite par le prophète Jérémie, chapitre 14, verset 22. Parmi les idoles des nations, parce que, voilà, dans les temps anciens, tout était attribué aux idoles. Mais parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir ? Ou est-ce le ciel qui donne la pluie ? N'est-ce pas toi, Éternel notre Dieu ? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait toutes ces choses. Ce n'est pas le ciel qui donne la pluie. C'est toi, Éternel, qui donne la pluie. Et le Seigneur Jésus le confirme dans l'Évangile. Il confirme que la vie naturelle vient toujours de Dieu. Ce grand passage de Matthieu, chapitre 6, les versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc ici, le Seigneur Jésus nous parle des oiseaux et... Petit détail dans Luc, des corbeaux que le Seigneur nourrit lui-même. Et des lys que Dieu revêt. Et il enseigne cela pour que nous portions nos efforts vers les choses du royaume de Dieu et non pas vers celles de la vie naturelle. Parce que les choses de la vie naturelle, Dieu s'en occupe. Dieu nous attend, nous, sur ce qui est juste, sur son royaume et sa justice. C'est là que nous devons porter l'effort. Le reste, Dieu sait et Dieu donne. Dieu pourvoit. Le maître va plus loin et il nous demande de garder à l'esprit le même principe lorsque notre vie est menacée. Et ça, c'est au chapitre 10 de Matthieu, versets 28 à 31. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que des passereaux. Plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Ici, le contexte, c'est celui du témoignage public de la foi. Et le Seigneur nous demande de ne pas craindre, dans toutes circonstances, d'apporter ce témoignage, parce qu'il prend soin de nous, notre vie dépend de lui, tout comme la vie des passereaux dépend de lui. Et tout comme lorsque nous grandissons et que nous prenons notre stature, notre corps se développe, apparaissent le nombre de cheveux que le Seigneur a décidé de nous donner. Et effectivement, nos cheveux sont tous comptés. Ils sont comptés dès l'instant où, dans l'ADN, le Seigneur a décidé que ce serait comme ça. Tout est inscrit dans la génétique au départ. Le Seigneur a programmé cela très précisément. Donc notre corps, notre vie tout entière lui appartient et nous ne devons pas craindre même de perdre cette vie parce que nous témoignons de lui. La foi en la parole de Dieu pour notre salut, c'est bien cela dont il s'agit en définitive, d'être sauvé par le Seigneur, par sa parole. Cette foi pour le salut implique d'abord la foi en la parole de Dieu comme force créatrice. Dieu insiste dans son prophète Ésaïe justement sur le fait qu'il a créé les cieux et la terre, il a créé toutes choses. Au commencement était la parole. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Matériellement, physiquement, nous existons par la parole de Dieu. Et Hébreux chapitre 1, verset 3, le Fils, le Seigneur nous a parlé par son Fils dans les derniers temps, qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lui aussi, il a créé l'univers, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toute chose par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Oui, encore aujourd'hui, la cohésion des choses créées dépend de la parole de Dieu, la parole du Fils de Dieu qui soutient toutes choses. Ce qui revient et est traduit, on peut dire, par cette affirmation que l'on trouve dans le livre de Job, à partir du verset 13 du chapitre 34, qui l'a chargé de gouverner la terre ? Qui a confié l'univers à ses soins ? Non, je remonte un peu plus haut parce qu'il est aussi question, justement, de justice. Verset 10, « Écoutez-moi donc, homme de sens, loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité, le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre ? Qui a confié l'univers à ses soins ? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. Si Dieu retirait son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain. Mais il exerce en tout temps la justice et il maintient la création tel qu'il l'a voulu initialement. Alors, je dirais, regardez le monde avec les yeux de la foi. Et alors, vous serez ce reste, cette rosée qui ne compte pas sur l'homme. Parce qu'en toute chose, vous verrez Dieu à l'œuvre. Exister en quelque sorte par Dieu lui-même, que ce soit pour la vie présente ou pour la vie éternelle. Je me souviens que Paul dit à Timothée que la piété a les promesses de la vie présente et de la vie éternelle, les deux. Mais voilà, dans ce passage de Michée auquel je reviens, il y a un enchaînement au verset 7. Le reste de Jacob sera parmi les nations au milieu des peuples nombreux. Répétition de ce qui a été dit auparavant. Comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis, lorsqu'il passe, il foule, les déchire et personne ne délivre. Que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient exterminés. C'est dans la même logique, le même raisonnement. Et là, la métaphore est prise sur un autre aspect de la vie, de la création. Ici, Dieu a aussi créé le lion, les animaux sauvages, et il leur a donné une force et une puissance. Et tout comme les gouttes d'eau ne comptent pas sur l'homme, le lion ne compte pas sur les hommes non plus. Et il accomplit sa propre mission selon ce que le Seigneur lui a donné pour vivre. Alors ici, il va faire des ravages parmi les troupeaux de brebis. Ici donc, c'est un autre aspect. Dieu a créé les gouttes de rosée et il les recrée chaque matin. Mais il a aussi créé le lion, qui est là avec de la force et pour combattre. Alors si nous sommes un peuple qui bénéficie de la grâce et de la bonté du Seigneur, qui vit de ce que lui nous accorde. Et si nous sommes donc comme les gouttes de rosée qui reçoivent la bénédiction, qui reçoivent cette grâce qui vient d'en haut, eh bien nous sommes aussi comme le lion qui, lorsqu'il doit attaquer, attaque, qui, lorsqu'il doit être agressif pour se nourrir, parce qu'il s'agit de ça, en fait, dans la nature, eh bien, ne se prive pas de déployer toute sa puissance, parce que c'est Dieu qui lui en a donné la capacité. Et il ne regarde ni à droite ni à gauche, il fait comme Dieu lui a donné l'autorisation. Même chose pour nous. Le Seigneur, si nous devons combattre pour lui, car il s'agit de cela, si nous devons combattre pour lui, eh bien, nous ne regardons ni à droite ni à gauche. Nous ne comptons pas sur ce que la société, les hommes, les autorités, les puissants vont nous donner. Nous allons et nous faisons selon la force que le Seigneur nous a accordée pour cela. Alors je vous disais tout à l'heure de regarder avec les yeux de la foi. Et il faut rappeler que les yeux naturels nous trompent. Si nous regardons avec simplement les yeux qui voient les choses présentes, eh bien nous sommes trompés. Le Seigneur dit dans le psaume 62, versets 10 à 13, je prends encore un peu plus haut, verset 8, « Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge sont en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Voilà les hommes que nous regardons parfois en étant effrayés. Tous ensemble, ils montraient dans une balance plus léger qu'un souffle. Tous ensemble, pas chacun individuellement, mais tous les hommes ensemble, dans une balance, seraient plus légers qu'un souffle devant le Seigneur. Vanité, les fils de l'homme, mensonge, les fils de l'homme. Donc il est juste de ne pas se confier en l'homme. Il est juste de ne pas compter sur les fils des hommes, mais de ne compter que sur Dieu. Notre marche chrétienne consiste à compter sur Dieu et sur sa parole. D'ailleurs, sa parole est elle-même la rosée. Dans le Deutéronome, au chapitre 32, versets 1 à 3, donc c'est Moïse, cantique de Moïse, « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai, terre, écoute les paroles de ma bouche. » Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe sur comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendrai gloire à notre Dieu. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. La rosée elle-même, la parole de Dieu est comme une rosée. Et alors, il s'est passé quelque chose dans l'histoire. C'est que cette rosée, à un moment donné, elle a contenu la manne, la parole de Dieu vivante parmi nous. Puisque dans l'Exode, au chapitre 16, nous lisons que le soir, verset 13, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Le moment où le peuple avait faim, il réclamait à Dieu sa subsistance. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme de la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ? Manhu, qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Et à partir de ce moment-là, tous les matins, pendant 40 ans, Dieu a fait naître la manne de la rosée qui se trouvait, qui se répandait autour du camp. La rosée est devenue la manne, la parole de Dieu qui fait vivre. Car le Seigneur vous a nourri de la manne, dit, rappelle Moïse, afin que vous sachiez que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Ce qui nous amène, bien sûr, à notre Seigneur Jésus lui-même dans l'Évangile, puisque Jean au chapitre 6, verset 31, à 35 ici, mais c'est tout le passage. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Combien Jésus était cette rosée donnée par Dieu, cette rosée qui ne dépend pas des hommes. Jésus n'a jamais dépendu des fils de l'homme. Il comptait parfaitement et entièrement sur son Père. Et il était cette manne, ce pain donné par Dieu. Alors si nous le recevons par la foi, eh bien c'est vraiment pour nous aussi le moment de commencer à dépendre totalement de Dieu, puisque nous avons en nous cette vie parfaite de Jésus-Christ. Nous ne dépendons plus du tout des hommes, en tout cas, bien sûr, concernant notre salut, concernant notre relation avec Dieu. Nous dépendons de Jésus qui est venu dans l'incarnation, dans la chair de l'homme, pour nous donner ce corps et que nous puissions vivre par lui. Alors à ce moment, nous vivons pleinement de Dieu lorsque nous le recevons. Et nous sommes vraiment cette rosée, nous aussi. Alors, que le Seigneur vous encourage à compter sur lui, bien sûr, concernant la vie spirituelle, la vie de l'esprit, la vie pour l'éternité, mais qu'aujourd'hui également, dans votre vie quotidienne, dans votre vie humaine, vous soyez ce reste qui voit Dieu à l'œuvre en toute chose, qui dépendent de Dieu, qui ne craignent pas les choses de ce monde, les hommes de ce monde, les frustrations, les manques même qu'il y aura dans la vie qui vient, dans les temps qui viennent. Toutes ces choses-là ne nous empêcheront pas de vivre, ne vous empêcheront pas de vivre, parce que vous vivez même pour le pain, même pour le corps, vous vivez de Dieu. Amen.